Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David de me rendre l'antenne après ton animation musicale. On te retrouve évidemment à partir de 13h. Alors c'est le moment que vous attendez tous, l'invité du 12-13, un moment d'échange privilégié avec les acteurs du territoire, ceux qui font vivre votre région. Aujourd'hui, nous accueillons l'association alors PEIO. C'est un prénom, c'est aussi l'acronyme de partager, être, interagir et ouvrir. Nous avons dans notre studio Standy Azevedo, vice-présidente de l'association et infirmière aussi à l'USP. Et nous avons aussi Alain Hervé, président de l'association. Bonjour, comment allez-vous tous les deux?
Bonjour, ça va, merci de nous recevoir.
Ben, ça va très bien, merci. Petite dédicace spéciale à Sandy qui n'a dormi que 2 heures cette nuit.
Voilà, c'est ça. Ben oui, parce que son métier, on va en parler.
Parler longuement. Donc elle a fait une prouesse physique et sportive pour être là.
Voilà, on va essayer de maintenir le niveau de la discussion pour pas qu'elle s'endorme. On va faire des efforts, je vous promets. On va passer donc une heure ensemble pour découvrir votre association et ses actions, son combat qu'elle effectue. Et on va d'abord écouter le flash info national et international. Et on se retrouve pour le début de notre émission. À tout de suite. Nous voilà de retour pour la première partie de cette émission. Alors, comme toujours, la tradition, on aime bien avoir un petit peu une idée de la trajectoire de nos invités, une petite bio qui nous donne une idée de la trajectoire qu'ils ont parcourue pour arriver aujourd'hui à ce micro. Est-ce que, Alain, vous voulez vous prêter à cet exercice?
Non, Alain est un homme galant. Il va laisser la parole à Sandy pour commencer.
Très bien. Allez, Sandy.
Donc, moi, c'est Sandy. J'ai 29 ans. Donc, je suis infirmière sur l'unité de soins palliatifs depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Donc j'ai fait l'école d'infirmière sur Dax, puisqu'à la base je suis montoise, mais mon cœur est à Dax, donc je suis restée sur Dax après mes études, et donc j'ai travaillé 2 ans en hospitalisation à domicile, et c'est là en fait où j'ai découvert vraiment les soins palliatifs, et j'ai vraiment voulu me spécialiser en fait dans ça et travailler avec ces patients-là, donc j'ai intégré l'unité il y a un peu plus de 5 ans, et j'y suis très bien, j'y reste pour le moment.
Oui.
Voilà.
Très bien. Alors, c'est au tour d'Alain maintenant.
Oui, mais moi j'ai fait toute ma carrière professionnelle à l'hôpital de Dax, puisque j'y suis rentré en 84, en mars 84, et j'en suis sorti il y a 2 ans pour prendre ma retraite. J'ai donc été piqué au virus hospitalier quasiment une grande partie de ma vie. Ça m'a donné un caractère extraordinaire en tant qu'homme, parce que travailler à l'hôpital, on n'y vient pas par hasard. Mmh. On y vient parce qu'on a envie d'y être. Et puis, ce sont des rencontres humaines extraordinaires. Donc, effectivement, c'est pas toujours la gaieté, c'est pas toujours la joie. Moi, je suis arrivé en 83 dans les Landes. Je suis arrivé pour rejoindre une élue. Mmh. Élu de mon cœur à l'époque, et puis j'arrivais de la Picardie, je suis originaire d'Amiens,
voilà,
je suis né dans la Somme, j'ai fait mes études à Amiens, mes études d'assistant social, et puis voilà, en 83 je suis arrivé ici, je me suis installé d'abord dans ce très beau petit village qui s'appelle Agetmo, perle de la Chalosse, et puis ensuite voilà, je suis arrivé à Dax dans les années 90, et très heureux d'être ici, et j'ai le plaisir voilà, de présider cette association qu'on a créée en 2019. J'ai travaillé quelques années à l'unité de soins palliatifs, donc c'est vrai que j'étais pas un inconnu, et puis surtout le sujet me tenait à cœur. Et voilà, donc c'est voilà, la vie, une vie simple, mais une vie remplie que j'aime passionnément.
Très bien, c'est engageant déjà. Alors on va parler de l'association PEIO, donc c'est effectivement un acronyme, mais c'est au départ un prénom. C'est quelqu'un, on peut le dire.
Et puis c'était un sacré quelqu'un, comme dirait l'autre. PEIO, donc c'était Pierre. Pierre était un salarié de l'hôpital. Il était magasinier. C'est quelqu'un qui allait dans tous les services de l'hôpital et qui avait une personnalité très, très attachante. Ouais. Et puis PEIO, très vite après sa retraite, il a été emporté par cette fameuse maladie dont je tairai le nom, puisque tout le monde sait de quoi
je parle. Du crabe.
Voilà. Et puis, donc, il a fini sa vie au sein de l'unité soins palliatifs. Et sa sœur, que je salue, je pense qu'elle nous écoute, sa sœur, une fois qu'il a été parti, nous a dit « Mais vous avez fait un travail extraordinaire. Et moi, je voudrais vous remercier. Voilà, j'ai fait une collecte au sein de ma famille. Je voudrais vous remercier et savoir comment on peut améliorer les conditions de vie des patients, des familles, etc. Et puis, voilà, de fil en aiguille, très rapidement, a germé l'idée de créer cette association pour répondre à des besoins qui sont des besoins très importants. On pourrait y revenir un petit peu après. Encore une fois, dans mes propos, je veux surtout qu'on n'aille pas penser que c'est l'hôpital qui ne fait pas les choses. C'est que l'hôpital n'a pas la capacité financière.
Oui, il fait ce qu'il peut.
L'hôpital. Voilà, l'hôpital, vous savez que les budgets sont de plus en plus contraints.
Oui, bien sûr.
Et de ce fait, bah, quand il y a une association qui se monte et qui affiche la couleur en disant bah, « Nous, ce que vous ne pouvez pas faire, on ne va pas le faire à votre place, mais on va le faire dans l'intérêt de toute cette population, hein, famille, patients, proches et personnel. » Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est monté. On a fait les statuts. Et puis, bah, très vite après, est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire la Covid.
Oui.
Et donc, une association, comme beaucoup d'associations, comme un pays, comme une planète qui se met en sommeil. Mmh. Et puis, quand bah, tout ça n'a plus été qu'un mauvais souvenir, on s'est dit, bah, maintenant, ça y est, on démarre vraiment.
Oui.
Et voilà, l'asso a démarré de manière très, très, très vive, très efficace et, et avec une équipe extraordinaire. Moi, j'ai la chance de les côtoyer. Je les ai côtoyés professionnellement, puis je les côtoie maintenant sur le plan associatif. Mmh. Et c'est vraiment une aventure extraordinaire.
Oui. Alors, comme j'en ai parlé un petit peu hors antenne, cette histoire de Covid a été vécue différemment, suivant ce qu'on a fait dans la vie. Mais c'est vrai que le milieu hospitalier a été particulièrement traumatisé, que ce soit les soignants, les patients, les familles, puisqu'il y a eu cette coupure. Ah, parce que vous, ce que vous faites, c'est le contraire, en fait. C'est de continuer à faire du lien et, et faire vivre et sourire les gens, alors que vous en avez été empêché par la maladie, etc. Et donc, je pense qu'aussi, ça a dû vous donner du niaque pour rebondir sur ça et faire une petite revanche sur cette période difficile.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, cette période de Covid, alors, je ne l'ai pas vécue à l'hôpital, je n'étais pas encore sur l'unité. Je l'ai vécue à domicile aussi avec les patients. Mais quand je suis arrivée sur l'unité de soins palliatifs en septembre 2020, il y avait quand même bon, toujours un peu cette ambiance Covid, même si on en sortait un petit peu. Ça a été très compliqué, autant pour les patients que pour les familles, puisque... on essaye de restreindre les visites, mais c'était pas quelque chose qui se faisait déjà sur les soins palliatifs.
Oui.
Quand on a des patients en fin de vie, c'est pas concevable de demander à des familles de ne pas être là tout le temps.
Ben, oui.
Donc ça a été très compliqué de trouver aussi une organisation dans cette ambiance. Mais bon, je pense qu'on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. On a quand même eu des bons retours à l'issue de tout ça, mais bon, tout ça est derrière nous, donc, donc tant mieux.
Oui, tant mieux. Alors, c'est l'occasion aussi, on va dire, parler un petit peu, qu'est-ce que c'est ces fameux soins palliatifs, hein, en quoi ça consiste exactement, qu'est-ce que ça concerne. Alors, est-ce que ça concerne systématiquement des gens qui sont en fin de vie, ou est-ce que ça peut être aussi transitoire pour certaines pathologies
Non, effectivement, on a souvent l'image des soins palliatifs fin de vie.
Mmh.
Mais c'est pas uniquement ça. On accueille donc forcément des patients qui sont atteints d'une maladie qui est incurable. Mais en gros, pour résumer, les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire quand on ne peut plus rien faire.
Oui.
Donc au niveau des traitements, on a plein de choses à proposer aux patients. Donc oui, on a des patients qui arrivent pour des fins de vie, mais on a aussi beaucoup de patients qui ont des problématiques de douleurs du cancer qui sont plutôt complexes à soulager. Et ça, on a vraiment une équipe qui est spécialisée là-dedans. Donc, nos patients viennent pour revoir le traitement de la douleur, de l'anxiété, pour refaire aussi, remettre en place un petit peu les aides à la maison. Des fois, on a aussi des répits pour les familles parce que c'est compliqué pour eux à la maison d'être toujours présents. Donc, on leur propose aussi un répit. Donc, voilà, on fait plein de choses.
Oui, c'est vrai, les familles, bon, voilà, je reviens sur l'émission d'hier avec France Alzheimer. On a beaucoup parlé, bien entendu, des malades, mais aussi beaucoup des aidants, hein, que les aidants ont besoin d'être aidés aussi.
Oui.
Ça peut paraître un peu redondant, mais c'est la réalité, puisque, et puis même, ils vont rester là, normalement, donc il faut qu'ils survivent à cette épreuve aussi, c'est pas facile. Voilà, alors, au début, on dresse un tableau qui paraît sombre, après on va revenir vers le soleil. Oui. Mais c'est vrai que voilà, donc la difficulté et la douleur, ça fait partie de votre quotidien. Je parle de la douleur qu'on doit gérer. Alors, je suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y a des médicaments ou des méthodes. Voilà, donc vous travaillez tous les jours à faire en sorte que les gens souffrent le moins possible, en fait.
Oui, c'est ça. Autant sur le plan physique aussi psychologique,
voilà,
que ce soit, comme on l'a dit, pour les patients, mais aussi pour les familles, parce qu'on ne fait pas l'un sans l'autre. Vraiment, on a besoin des deux aussi pour avancer dans les prises en charge. Et donc, on essaie effectivement d'une partie alors médicamenteuse, mais c'est aussi beaucoup une volonté de l'équipe d'intégrer petit à petit beaucoup de techniques non médicamenteuses. Et ça aussi, l'association permet de venir appuyer aussi ces formations et ces techniques parce qu'on a besoin de différents outils qui donc sont pas forcément financés par l'hôpital. Donc aussi, l'association nous aide à mettre en place toutes ces techniques et on le voit de plus en plus, les patients sont vraiment en demande d'autres choses que toujours des médicaments. Mais les deux viennent en fait en complément.
Très bien. Ben, merci beaucoup. C'est engageant de voir que c'est abordé ces deux aspects, effectivement, mental et physique. C'est toujours une douleur et c'est toujours compliqué. On va faire notre première pause et on se retrouve ensuite pour la suite de notre émission. Et voilà, de retour avec nos invités. Alors, vous remarquerez, j'ai mis une playlist assez dynamique, assez gaie. Alors, c'est pas parce que le sujet est triste et qu'il faut contrebalancer. C'est pas ça, en fait. C'est que, effectivement, les soins palliatifs, on en a parlé, c'est plutôt sombre, etc. Mais j'ai bien compris, en préparant l'émission, en ayant discuté avec vous, que c'est un lieu de vie et pas forcément un lieu de mort, les soins palliatifs. Ça, c'est important. Voilà, c'est toujours de la vie et toujours encore de la vie.
Voilà. Bah, c'est un peu des objectifs, enfin un des objectifs de l'association, c'est de se dire que ce temps que les gens vont passer, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, autant l'agrémenter le plus possible pour qu'ils retrouvent un environnement apaisant, agréable, et donc avec une équipe, parce que la particularité de l'association, c'est que tous les gens qui sont soit au bureau, soit membres de l'association, sont... Moi, j'en fais plus partie, mais ils se sont quasiment tous des soignants. Donc, la problématique, c'est-à-dire quels sont les besoins au quotidien, ils les connaissent. Et donc, très souvent, lors de nos réunions de bureau, lors d'échanges informels, etc., elles font la liste. Alors, Père Noël, il vient souvent parce qu'il y a souvent des besoins. Et donc, elles font la liste en disant, voilà, ça, il faut acheter, ça, acheter. Donc, des fois, c'est des petits achats du quotidien, de la déco, du maquillage. Sandy, aide-moi, qu'est-ce que...
Oui, en fait, l'objectif, c'est vrai que l'association permet d'acheter notamment du petit matériel pour les chambres. Le but, c'est vraiment de désanitariser, démédicaliser un petit peu les lieux. D'intégrer aussi les blouses blanches et les soins au milieu d'une chambre qui est un petit peu moins médicalisée. Notamment, exemple, on a rajouté des petites lampes de chevet, on a des tableaux aimantés où les familles peuvent mettre des photos. On propose une tablette pour les patients. Qu'est-ce qu'on propose ? On a des petits vases avec des fleurs. Enfin,
des fleurs.
Ça paraît rien, mais, mais ça décore un petit peu la chambre et c'est proposer quelque chose de plus humanisé aussi pour les patients et pour rendre l'hospitalisation un peu plus agréable.
Il y a quelque temps, on a un jeune élève de l'école des Beaux-Arts à Paris, qui est le fils d'un médecin. D'ailleurs, on salue. On salue toute l'équipe médicale. On aura l'occasion de les remercier tout à l'heure. Et il est venu faire une fresque. Au sein de l'unité de soins palliatifs. Il est venu faire une fresque pour redonner un petit peu plus de gaieté dans le service, parce que faut pas se raconter d'histoire. Quand on y rentre, on sait très bien que c'est un moment compliqué pour tous ceux qui rentrent. Donc tout ça, ce sont des petites choses. Et puis, alors ça, ce sont des petits investissements. Et puis après, parce qu'il faut en parler, il y a des gros investissements. Et le plus gros investissement qui a eu lieu jusqu'à présent, le 13 mars, c'est une date qui nous a marqué. Parce que le 13 mars, donc en présence de monsieur le maire, en présence des élus de la ville de Dax, en présence de la direction du centre hospitalier, nous avons offert un chariot Snozélène. Un chariot qui est une valeur marchande assez importante. Et ça n'était pas envisageable que l'hôpital, pour les raisons qu'on a évoquées, des contraintes budgétaires importantes, ça n'était pas possible que l'hôpital finance ce type d'investissement. Et bien, sur nos fonds propres, on s'est dit, on fonce. Et ça a été notre premier investissement. Très symboliquement, c'est important parce que c'est quelque chose qui est vraiment à destination des patients, mais comme Sandy va vous expliquer, parce que chez Snozélène, c'est quoi
c'est la question. Avec un nom pareil déjà, qu'est-ce
avec
que c'est ce truc?
Un nom un peu barbare. Oui, en fait, l'approche Snozélène, alors je vais essayer de le faire assez simple et de bien vous l'expliquer. C'est vraiment une approche en fait qui va aller chercher un petit peu tous les sens du patient, mais sans trop les stimuler. En fait, le but, c'est vraiment de proposer un moment de relaxation au patient. Donc, en fait, c'est un chariot, nous, qui est mobile. Il existe vraiment des pièces entières dédiées à ça. Nous, c'est un chariot qu'on déplace, en fait, de chambre en chambre. Mmh. Et on peut y mettre de la musique, on peut projeter des images un petit peu relaxantes, des fonds sous-marins. On a aussi des papillons dans un décor de nature.
Ah oui.
On a une colonne à bulles, donc vraiment le son de l'eau avec les bulles, des fibres colorées. On a vraiment plein de choses à proposer en fonction des patients. On adapte et on propose ça, alors soit juste pour un moment de relaxation, pour proposer vraiment une parenthèse aux patients durant l'hospitalisation. On peut l'utiliser aussi en complément, en fait, pendant des soins qui peuvent être un petit peu douloureux ou désagréables, soit en complément des traitements ou pas. C'est vraiment un outil qu'on utilise beaucoup auprès des patients qui souvent ne connaissent pas du tout. Ils sont assez curieux de découvrir. Ils se laissent facilement porter parce que les patients nous font confiance. Et on n'a jamais eu de retour négatif. C'est plutôt très positif. Et les patients même le redemandent après à refaire une petite séance avec le chariot. Ouais.
Alors, ça peut projeter des images
Effectivement. On a un vidéoprojecteur. Donc, on a des DVD un peu qui sont fournis avec...
la nature,
voilà,
des choses comme ça.
C'est ça. Ouais. Et ensuite, donc, nous, quand on a fait l'achat d'une tablette aussi, on peut la connecter. Et on peut même, pourquoi pas, en fait, diffuser une vidéo. Je ne sais pas, moi, la famille nous transmet une vidéo, un souvenir. Pourquoi pas le projeter dans la chambre. On peut vraiment créer plein d'univers et vraiment l'adapter à chaque patient.
D'accord. Alors, pour ceux qui ont passé une IRM aussi, ça peut arriver des fois, et ça, c'est assez sympa, d'avoir un casque. Parce que l'IRM, ça impressionne les gens, parce que ça fait un petit peu de claustrophobie, des fois. Et puis, ça fait du bruit. Voilà. Et donc, avoir un casque avec de la musique et avec un système, avec un miroir qui va voir sur un écran sur lequel est projeté des images de nature.
C'est un peu aussi sur ce principe.
Ça me fait penser à certaines scènes de Soleil Vert. Bon, il n'y a que les anciens qui connaissent un vieux film, c'est Charlton Heston. On voit des scènes de nature et comme ça qui accompagnent la fin de vie des gens.
Vous m'avez perdu, c'est pas mon époque.
Alors c'est les années. Ça doit être 50, je pense.
Au moins, elle dort pas, ça, c'est qui souhaite.
Mais c'est un beau film, c'est un très beau film. Voilà. Donc,
et je profite, enfin, je complémente un tout petit peu. La description très, très bien faite de Sandy, c'est aussi un moment où les familles ont un moment particulier avec leur patient, avec leur mari. Et c'est un moment où ils partagent quelque chose dans un climat apaisé.
Voilà.
Et ça, les familles, pour l'avoir testé, font des retours en disant quand est-ce qu'on refait, parce que c'est un moment particulier. Et c'est vrai que ce chariot, ça faisait 2-3 ans qu'on se disait vivement qu'on puisse. Et puis le jour où on l'a vu arriver, où il a été remis de manière très, très officielle, parce que tout ça, c'est quelque chose d'officiel. On n'amène pas comme ça un chariot dans un service hospitalier. Il y a des contraintes, questions d'assurance. Mais ça nous a vraiment marqué. Et puis là, il y a deux achats qui vont se faire. Alors, il y en a un qui doit être fait, d'ailleurs, Sandy.
Donc.
Les enceintes connectées.
Ah oui, à fait, ouais. On a le projet d'acheter des enceintes connectées, pour mettre un petit peu de musique dans les couloirs. Alors, on ne mettra certainement pas du hard rock.
Mais on mettra Souvenir FM. On mettra Souvenir FM.
Je connais très bien quelqu'un qui a été opéré il n'y a pas longtemps à l'hôpital d'Ax, et les infirmières, au moment dans l'anesthésie, ils ont demandé qu'est-ce qu'il voulait écouter, et il a dit Gojira, et on lui a mis du Gojira dans les oreilles pendant qu'il s'endormait. Je ne dirais pas qui c'est, mais il n'est pas loin.
On pourra mettre une petite ambiance dans les couloirs, et puis après, de façon individuelle, il y aura aussi des enceintes dans chaque chambre, où là, du coup, les patients pourront mettre vraiment ce qu'ils veulent.
C'est vrai que des bruits d'ambiance de forêt, il existe des playlists sur les plateformes qui sont faites exprès, avec des bruits de nature, de l'eau qui coule, ou même de la pluie, et c'est vrai que je crois que ça induit une certaine détente, une certaine relaxation et l'oubli de l'instant présent avec tous les inconvénients qu'il peut y avoir.
C'est vrai que souvent on propose aussi aux patients pendant les soins ou pendant la toilette de mettre un petit peu de musique, ce qu'ils veulent écouter amener autre chose aux soins.
Puis on va acheter des produits de qualité parce que notre capacité financière, je crois qu'il faut appeler un chat un chat, une capacité financière qui nous permet, et aussi on se dit mais il faut qu'il y ait de la qualité pour que ce soit une vraie plus-value dans la prise en charge. Et puis notre dernier investissement qui sera aussi très bientôt réalisé, alors il y a une chaîne crypté en France,
qui finit par un plus.
Voilà, qui peut pas, voilà, qui peut pas être reçu par tout le monde. Et puis, voilà, pour des raisons budgétaires, il n'y a plus l'abonnement de cette chaîne codée à l'hôpital. Eh bien, nous allons changer les téléviseurs pour qu'ils soient à nouveau adaptables pour pouvoir se connecter, et on va payer l'abonnement à cette chaîne, puisqu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens qui aiment le rugby, et on se dit, voilà, et donc ça me permet, ah bah tiens, je pense que c'est un hasard, ça me permet de saluer notre parrain, Romain Lafitte, journaliste Canal+, qui nous a fait l'honneur de rejoindre l'équipe. On pourra tout à l'heure en parler un tout petit peu plus, expliquer comment il est devenu parrain.
On va en parler après cette deuxième pause. On va écouter le Flash Info local et puis on retourne vers vous tout de suite. Voilà, de retour, rien de mieux qu'un bon vieux Stevie Wonder pour se redonner la pêche. C'est quand même quelqu'un, il faut le dire. Alors oui, alors donc voilà, on a bien compris. Vous faites des actions aussi, des manifestations, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu?
Disons que l'association... En toute modestie, commence à avoir une certaine notoriété sur la ville, même sur le département, parce que quand vous accueillez des gens, des familles, etc., à force, les gens parlent entre eux. Donc, et puis voilà, donc on vient nous chercher. On vient nous chercher sur des courses à pied, sur des marches. On a eu la chance d'être invité il y a quelques mois au Basket Folies à Eugas pour pouvoir présenter l'association. On a aussi la chance, suite à un accompagnement qui a été un accompagnement fort dans l'unité soins palliatifs, on a la chance d'être invité depuis 2 ans sur le tournoi de golf à Salis de Berne.
Oui.
C'est devenu maintenant un rendez-vous qui est programmé. On a été invité cet été par le club des supporters de Pouillon-la-Battute à Vide-Grenier. Tous les supporters avaient en fait réuni plein de choses. Et puis ils nous ont dit, tout ce qui sera vendu, ça sera pour vous. Et ça, des exemples, je peux les dupliquer sans difficulté. Ce que je dois dire aujourd'hui, ça, c'est important, c'est que toutes ces manifestations... on y va parce qu'il y a un personnel et qui sont pour la plupart membres de l'association. Il y a un personnel qui, sur ces week-ends, sur des soirées, ils font fi un petit peu de leurs contraintes horaires, parce qu'on sait qu'à l'hôpital, vous travaillez le matin, le soir, la nuit.
C'est ce qu'on voit.
Et vous les voyez des fois arriver sur une manifestation à 8h du matin. Elles ont dormi une heure, des fois pas dormi. Et c'est cet investissement qui est extraordinaire. On vit dans une société et dans un monde où on est sans arrêt en train de dire, les gens, ils sont très individualistes, les gens pensent qu'à eux. Mais c'est pas vrai. Il y a des exemples mais extraordinaires d'investissement humain, de gens qui ne pensent qu'à l'autre, parce que c'est leur histoire. Parce que notre association, je le répète, ce sont tous des bénévoles. Un euro qui rentre, c'est un euro qui sera réinvesti systématiquement dans l'association. Donc voilà, des manifestations, il y en a des programmées. Sans dire, est-ce qu'il y en a une ou deux qui devraient mettre en exergue?
On fait des petites actions comme des tombolas plusieurs fois dans l'année. Là donc celle qui arrive c'est la tombola de Noël, donc on demande aux commerçants un petit peu du coin qui nous offrent très gentiment des lots pour cette tombola qui a eu un succès là sur les années d'avant. Donc voilà, il y a des petites actions comme ça qui nous permettent aussi de récolter un peu plus un peu plus de fonds pour l'association.
C'est vrai que les commerçants ils jouent sacrément le jeu quand on va les voir. Ils disent mais on ne peut pas faire autrement de vous donner. Et à Pâques on fait depuis 2 ans maintenant, à Pâques on fait la tombola du chocolat, c'est-à-dire qu'on va voir tous les chocolatiers de la ville, on va voir la grande distribution et on fait une tombola qui est basée que sur la distribution de chocolat. Et c'est vrai que là aussi on a un super retour de tous les gens que l'on c'est vrai qu'on a on a le vent en poupe moi je préfère dire les choses, on a le vent en poupe parce que les gens se rendent compte du travail qui est fait et du pourquoi il est fait, parce qu'on a tous dans nos entourages, dans nos familles, on a tous à un moment ou un autre malheureusement été confrontés. Et là quand vous dites aux gens moi je vais améliorer de manière quotidienne la vie des gens qu'on nous confie, comme vous disiez tout à l'heure, patients, parents, on prend la globalité de la personne en jeu. Et puis les soignants.
Oui, les soignants aussi.
Parce que les soignants, il faut savoir quelque chose, c'est quand ils veulent partir en formation, il y a toute une procédure qui est relativement complexe. Il faut déposer un plan de formation. Et le plan de formation, quand il est accepté, vous pouvez partir raisonnablement dans les 2 ou 3 ans qui suivent. Là, on a cette capacité financière à financer des actions. Sandy va donner quelques exemples par...
On peut. Le but de l'asso, c'est aussi de pouvoir financer ces formations pour les soignants. Alors là, pour l'instant, on est, du coup, on est en discussion justement pour, par rapport au chariot Snow-Zélène aussi, pour un peu plus se former sur la technique. On a une première approche, mais se former un peu plus spécifiquement. Et puis aussi penser aux soignants dans le bien-être, puisqu'il faut aussi qu'on soit bien pour pouvoir s'occuper de nos patients. Donc récemment, on a décidé aussi de pouvoir offrir à chaque soignant une fois par an un soin de bien-être pour aussi offrir une parenthèse pour pouvoir un peu s'échapper de ce quotidien. Voilà, on essaie de faire des actions, que ce soit pour les patients, les familles et aussi un petit peu pour les soignants.
D'autant plus que vous êtes à la fois soignante et à l'association. Donc du coup, ça prend une part importante dans votre vie, en termes d'horaire et aussi de charge mentale.
Mais c'est vrai que c'est motivant, parce qu'on voit, directement les retours auprès des patients, des familles. Eux, ils le voient très concrètement, ce qu'on fait, puisque l'achat de matériel, souvent, en fait, ils disent, oh, c'est super, vous avez ça, ça. Ben, en fait, on leur dit, ouais, mais ça, c'est possible grâce à l'association. Et c'est comme ça, en fait, qu'on leur fait découvrir l'asso. Donc, quand on a des super retours comme ça, ben, c'est ultra motivant, en fait, de se mobiliser, de continuer, en fait, à faire des actions. Et voilà.
Bien sûr. Alors vous, en tant que soignante, on va s'en renseigner un petit peu, parce qu'on ne sait pas forcément comment fonctionnent tous les emplois et les vies des gens. C'est quoi vos rythmes de travail? Vous parliez de sommeil, etc. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites les 3 bits, ce qu'on appelle les 3 bits, c'est l'équivalent
Non, alors nous, chaque service un peu dans l'hôpital a parfois ses propres horaires. Nous, on travaille beaucoup en binôme sur l'unité de soins palliatifs. Donc, on a un premier binôme, en fait, qui commence à 6h30 le matin et qui travaille jusqu'à 16h30, donc une amplitude horaire de 10 heures. On a un deuxième binôme qui fait 9h30, 19h30 et un dernier binôme qui fait 19h, 7h sur la nuit. Et donc, en fait, toute l'équipe tourne sur ces trois horaires-là. Donc, on tourne entre jour, nuit.
Et alors, vous êtes combien de personnel sur le service
Je dirais une trentaine, en comptant les aides-soignantes, les infirmières, l'équipe médicale, sans oublier psychologues, diététiciennes, assistantes sociales, tout ce monde aussi qui tourne autour
des planches. Personne, tout ça, les personnes qui sont dans le service, des malades, vous êtes combien dans le service?
Alors là, on peut accueillir jusqu'à 8 patients dans l'unité. Pour l'instant, l'unité est vouée à grandir un peu plus pour qu'on puisse accueillir 10 patients. Mais les locaux actuels font qu'on a 8 lits. Donc, c'est pas beaucoup parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup de demandes. Et ensuite, sur la journée, donc on est deux binômes, infirmières et soignantes pour s'occuper des patients, plus l'équipe médicale qui est très présente aussi. Psychologue, tous ces acteurs autour de la prise en charge.
Alors j'ai cru comprendre, vous avez peut-être un petit projet de déménagement au rez-de-chaussée, c'est ce que j'ai cru voir dans un article. C'est pas évident aussi.
C'est pas encore acté. Mais c'est un véritable projet pour que cette unité puisse vraiment avoir un espace déjà plus important. Le rêve demain, c'est d'avoir un espace où les gens puissent sortir, puissent aller, par exemple, dans un jardin.
Ça fait bien.
Qui dit jardin, c'est par exemple quelque chose qu'on pourrait, nous, prendre en charge en termes d'aménagement, etc. Parce que là, actuellement, l'unité est au quatrième. Et les gens, ils sont forcément, la plupart du temps, cloîtrés un petit peu dans ce service. Donc ça, c'est un projet. Mais c'est un projet qui nous concerne, qui concerne l'unité. Mais c'est d'abord une histoire de financement, une histoire de projet.
De l'hôpital et tout. C'est pas un claquement de doigts, tout ça.
C'est une histoire de quelques années. Monsieur Truchot, le nouveau directeur, a effectivement donné des garanties sur le fait que c'est un projet qui verra le jour. Quand, on ne sait pas, mais il verra le jour. C'est vrai que...
Très bien. C'est sûr que c'est plus sympa de pouvoir voir, ne serait-ce que par sa fenêtre, la nature, les arbres, un peu de ciel. C'est toujours important, je crois. On en a besoin.
Et puis c'est vrai que pour les patients aussi qui ont des animaux de compagnie, qui veulent voir, on arrive des fois au quatrième étage à organiser tout ça, mais c'est vrai qu'au rez-de-chaussée, ce serait quand même plus simple. Puis je pense que la volonté aussi de tous les soignants, c'est de pouvoir se faire rencontrer les familles aussi pour qu'ils sachent qu'ils sont pas seuls, de pouvoir discuter aussi entre eux, de vraiment faire une unité dédiée en fait à ces patients et à ces familles.
Et nous voilà, dernière partie de cette émission. Alors on a des gens à citer quand même, parce que tout ça, ça se fait parce qu'il y a beaucoup de gens en fait dans cette aventure.
Ouais. Ouais, déjà je voudrais aussi et surtout remercier les médecins de l'unité, parce que ils sont associés au projet en première ligne, bien évidemment. Mmh. Et puis tout ce que l'on fait, on le fait avec leur collaboration, leur assentiment. On les met au courant des projets. Très souvent, ils en ont aussi. Et ce qui fait que quand on croise les envies, les besoins de chacun, on se rend compte qu'il y a encore du travail. Mais c'est ce qui est extraordinaire, parce qu'il y a une vraie unité. Et enfin, j'ai pas le souvenir, Sandy, tu me contrediras, mais j'ai pas le souvenir qu'il nous ait dit un jour, non, ça c'est pas vos compétences, etc. Alors, on fait ça avec beaucoup de prudence et beaucoup de réserve. Oui. On associe aussi toujours la cadre de santé du service, qui on veut pas que les choses soient faites contre l'avis de quelqu'un.
Oui, bien sûr.
Donc ça, c'est important de savoir que cette équipe médicale, elle est très derrière les projets. Mmh. Et puis voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais notre parrain Romain Lafitte. C'est une belle rencontre. Hein.
Oui.
Romain, je le suis sur le rugby depuis des années. Et puis voilà, je cherchais à le rencontrer parce que je me disais, Romain fait souvent savoir qu'il est d'Aqua. Mm-hmm. Romain fait souvent savoir qu'il est attaché à cette ville et qu'il y est né. Mm-hmm. Et puis un jour au marché, je lui dis je cherche un parrain et je lui dis que vous seriez la personne qualifiée. Est-ce que vous seriez d'accord? Il me dit, envoyez-moi les statuts de l'association, est-ce que vous faites? Et moi, je vous réponds. Mm-hmm. Et puis, à midi, il m'avait dit, OK, je suis partant, voilà. Et c'est un parrain qui est sur Paris pour son boulot. Mais dès qu'il peut revenir ici, et il y a 3 semaines, 1 mois, il était venu pour un week-end ici, en famille. Et puis, je lui ai fait savoir qu'il y avait un patient qui, malheureusement, était en fin de vie, mais c'est un patient fan de rugby,
oui.
Qui le suivait à la télé le jeudi soir, le vendredi soir. Et Romain m'a dit, je vais venir le voir. Et il a échangé très longuement avec l'équipe, il a échangé avec les médecins. Et puis, il a passé beaucoup de temps avec ce patient. Il s'est rendu compte qu'il y avait aussi, ils avaient des points communs, ils connaissaient des gens. Et il avait joué au rugby avec quelqu'un de la famille de Romain. Donc, tout ça, ça crée un élan, on va dire, de bienveillance. Et moi, je suis très heureux qu'il nous ait rejoints, parce que c'est, en plus d'être un super journaliste, c'est une très belle personne. Donc Romain, si tu nous écoutes, sache qu'on est très fiers que tu sois notre parrain. Et puis, puis moi, je veux remercier aussi, et surtout, voilà, tous les bénévoles de l'association, parce que sans eux, c'est une litote tout ça, mais sans eux, l'asso, elle ne serait pas ce qu'elle est. On a une envie terrible de continuer, d'aller encore plus loin, parce que des projets, on en aura encore. Mais vraiment, l'exemple de Sandy ce matin, qui prend sur son... Alors, un petit message en passant, n'appelez pas Sandy après l'émission pour la féliciter ou l'embêter. Sandy va faire un gros dodo, n'est-ce pas?
Oui, avant de rattaquer pour une deuxième nuit.
Voilà, Sandy va retravailler ce soir. Donc, comme elle, c'est une grande professionnelle, il ne faut pas parasiter son sommeil. Voilà, c'était un message. Voilà. Et puis, merci à l'hôpital de Dax, parce qu'ils nous permettent, quand on fait nos réunions, ils nous mettent des salles à disposition. Quand on avait fait la soirée de remise du chariot, ils ont mis toute la logistique à notre disposition. Voilà, ils mesurent. Hein. On a eu la chance il y a quelques semaines de voir M. Truchot, le nouveau directeur, venir à une de nos réunions de bureau. Il a passé un long moment avec nous et il a mesuré l'importance de cette association et il a mesuré aussi le dévouement de tous ces gens et voilà, on sait que l'associatif c'est un tissu fort dans les Landes, Dax, mais moi pour le mesurer avec elle, je suis vraiment, j'ai une grande fierté de les accompagner sur les projets.
Oui.
Un jour ce sera, je laisserai la place à une jeune femme.
Mais oui, c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir la direction de l'hôpital qui est quand même assez favorable à tous les projets qu'on peut présenter. Parce que forcément, donc on a les projets, mais il y a quand même des contraintes hospitalières quand même à respecter. Oui. Ça, faut aussi le prendre en compte. Mmh. Et ils sont quand même assez ouverts à nos propositions. Donc, c'est aussi agréable de pouvoir faire ça avec leur accord.
Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous savez si ça existe, ce genre de couple, on va dire, établissement et association dans d'autres endroits? Vous avez déjà entendu d'autres choses qui sont montées?
Oui, ça existe. Hein, il y a beaucoup d'endroits où les gens essaient de se démener pour améliorer. Nous, on est très modestes. Notre principale ambition, c'est une ambition locale. C'est d'être au plus près des personnes, et vraiment dans la globalité du soin. Et puis encore une fois, je me répète, mais Sandy l'avait dit en introduction, ce qu'il faut prendre la mesure, c'est que c'est une unité de vie. Il se passe de la vie, et il y a des rires, il y a des pleurs aussi, mais il y a des rires, il y a de la joie, oui. Et une équipe extrêmement dévouée qui prend mmh. beaucoup d'énergie pour que ces moments soient les plus agréables possibles. Et puis nous elles amènent aussi un supplément matériel, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de pouvoir dire ces besoins là ils vont améliorer la vie des patients.
Très bien. Eh ben, j'ai envie de vous remercier d'être venu et puis de ce que vous faites, parce que vous faites quelque chose qui est important et directement, dont vous pouvez mesurer directement l'impact, puisque vous avez la possibilité de voir le sourire des personnes qui ne sont pas forcément dans un bon état d'esprit trop marrant. Et voilà. Et donc, merci à vous pour ce que vous faites. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir reçus.
Merci. Et vive Souvenir FM.
Voilà, il faut faire écouter aux patients Souvenir FM, peut-être. C'est pour leur donner le sourire. Sauf aujourd'hui avec ma voix. Mais bon, je ne vais pas me plaindre alors qu'il y en a qui n'ont pas dormi.
Ça va.
Et si pour un dernier petit mot, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook et Instagram. Association PEIO. J'essaie de gérer un petit peu la communication de l'association, donc j'essaie de poster régulièrement ce qui est fait, ce qu'on finance aussi grâce aux dons et aux mobilisations. Donc vous avez un petit aperçu, en fait, un retour de ce qui est fait, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Hello Asso également.
Très bien.
Sandy est une cumularde, elle est infirmière, elle est vice-présidente et elle est chargée de com.
Très bien, merci beaucoup, au revoir.
Merci. Au revoir, merci à vous.